الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Nous voici dans la septième assise de l'étude de l'écrit bénéfique intitulé Dhammu qaswati al-qalb, le blâme de la dureté du cœur, de l'éminent savant l'imam Ibn Rajab, rahimahullahu ta'ala. Nous sommes dans la fin de cet écrit, où l'auteur, rahimahullah, traite des remèdes à la dureté du cœur. Nous en avons vu quelques-uns, parmi lesquels, kathratu dhikrillahi azza wa jal, l'abondance de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu al-ihsan ila al-yatama wal-masakin, la bienfaisance envers les orphelins ainsi que les pauvres. Nous avons vu également l'importance du rappel de la mort et combien son impact est bon et positif sur le cœur. Car lorsque la personne est insouciante, elle se rappelle qu'elle va mourir, tout devient insignifiant à ses yeux, à part sa rencontre d'Allah, sa rencontre avec Allah Azza wa Jal. Nous avons vu également le fait de visiter les tombes, ou alors c'est celle que nous allons voir maintenant, Inch'Allah Ta'ala. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Wa minha » et parmi les remèdes, « Ziyaratul qubur bittafakkuri fi hali ahliha wa masirihim » rendre visite aux tombes afin de méditer sur la situation de leurs habitants et de ce qu'il est advenu de ces gens-là, de ce qui leur est arrivé. وقد سبق قول أحمد للذي سأله ما يرق قلبي قال ادخل المقبرة. Nous avions vu la parole de l'imam Ahmed, rahimahullah, quand il a été interrogé. Qu'est-ce qui peut faire adoucir mon cœur? Il répondit, va entrer dans le cimetière. La visite des tombes, Ibn Rajab, rahimallah, nous dit, avec la méditation sur la situation des habitants des tombes et sur ce qu'ils sont devenus. Combien étaient là avec nous, parlaient avec nous et ne le sont plus aujourd'hui? Tu vas visiter les tombes et le fait de rendre visite aux tombes, te rappelle l'akhirah, te rappelle l'au-delà. Lorsque tu es bien trop occupé dans cette vie, que ce soit par la dunya, par le fait de ramasser l'argent, par le travail, par les membres de la famille, par les problèmes de la vie auxquels tu accordes une importance si grande que tu ne te rends même pas compte qu'ils sont en train de te détourner de l'objectif. Ils sont en train de te détourner de la priorité, du but que doit rechercher le croyant dans sa vie, à chaque jour, à chaque instant, chercher à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-shaytan, sa ruse est de longue date. Il t'étudie et observe quelles sont tes faiblesses. S'il voit en toi un moyen de te faire perdre ton temps parce que tu es quelqu'un qui donne beaucoup d'importance aux problèmes de la vie, alors il va tout faire pour que tu te concentres sur les problèmes et il va tout faire pour te montrer la vie comme dans une souffrance insupportable afin que tu ne penses plus à ce pourquoi Allah t'a créé et ainsi il t'aura eu. Et tu seras tombé dans sa ruse, qu'Allah nous en préserve. Pour cela, le cœur devient dur. Le rappel n'est plus profitable. Et c'est ainsi que tu vois que le cœur est dur. Car le cœur ne pense plus à Allah comme il se doit. Voire même ne pense plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le fait de rendre visite aux morts dans les tombes te rappelle immédiatement que toi aussi un jour, peut-être qu'on te rendra visite. Si encore on pense à toi, si tu laisses une bonne image avant de sortir de cette dunya. Et là, le fait de rendre visite aux tombes, ça découle du remède précédent qu'a cité l'imam Ibn Rajab rahimahullah, qui est le rappel de la mort. Tu te rappelles de la mort, tu te rappelles que toi-même tu vas mourir et que tu seras dans les tombes, alors tu vas rendre visite aux tombes. Car il y a une grande leçon dans la visite des tombes. Tu te rappelles de gens qui étaient avec toi, qui discutaient peut-être avec toi, qui avaient des projets, tu les voyais en pleine forme, tu les voyais dans leurs activités, et aujourd'hui tu leur rends visite en dessous de la terre, et il n'y a plus un bruit, il n'y a plus d'activité, fini l'argent, fini la dunya, fini tout cela, maintenant on est sous la terre, seul avec nos actes, bons soient-ils ou mauvais, à répondre à Allah subhanahu wa ta'ala. Où sont ceux qui étaient avec nous hier? Où sont ceux que nous avions connus? Ils ne sont plus là. Un jour, on dira la même chose de toi. Où est un tel? Je me souviens quand j'étais avec lui. Eh bien, il n'est plus là. Il y a donc une très grande utilité dans la visite des tombes. Attention, à condition que cette visite soit faite avec pour objectif de se rappeler l'akhira et de revenir à Allah Azza wa Jalla. Et c'est pour cela que beaucoup de salafs, des pieux prédécesseurs, allaient rendre visite aux tombes. Ils allaient même jusqu'à rester un très long moment à côté d'une tombe, alors qu'ils ignoraient qui était enterré dans cet endroit-là, juste pour se rappeler qu'un jour ça sera leur cas. Ils se remettaient alors en question et ils s'amélioraient dans leur lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu visites la tombe, tu passes à une deuxième étape de la certitude. La certitude chez les savants se divise en trois d'après ce qu'ils ont compris des textes. Il y a ilmul yaqin, aynul yaqin, haqqul yaqin. Premièrement, c'est la science de la certitude, c'est-à-dire que tu as une connaissance dont tu es pleinement convaincu, notamment que tu vas mourir et que tu seras enterré. C'est une connaissance que tu en es convaincu. On appelle ça « ilmul yaqin », la science de la certitude. Lorsque tu vas visiter les tombes, tu vois de tes yeux cette chose dont tu avais déjà été convaincu. C'est ce qu'on appelle « l'aynul yaqin », la vision de la certitude. Et lorsque toi-même tu mourras et tu seras dans ta tombe, tu seras alors dans ce que l'on appelle « haqqul yaqin », la réalité même de cette certitude-là. Ainsi, ça t'aide à augmenter ton niveau de certitude en l'au-delà. Ta certitude vis-à-vis du retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est doué de raison, celle qui est douée de raison, ce sont les gens qui savent tirer des leçons des autres avant qu'on ne tire des leçons d'eux. Tu vas visiter les tombes, tu médites sur ces gens-là, tu en tires des leçons bénéfiques pour toi qui t'aideront dans la réforme. Avant qu'un jour, on ne se serve de toi pour tirer des leçons. Le bienheureux, c'est celui qui tire des leçons des autres et qui n'est pas une leçon pour les autres. Et donc, visiter la tombe avec méditation, non pas juste pour passer par le cimetière, on se rappelle que la tombe, c'est la première demeure de l'au-delà. C'est pour ça que Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il passait près d'une tombe, pleurait à en tremper sa barbe. Les gens qui étaient avec lui lui disaient « Tudhkaru al-jannatu fala tabki » On te parle du paradis, de ses délices, de l'enfer et ses supplices, sans que tu ne pleures. Et lorsque tu passes devant une tombe, tu te mets à pleurer de cette façon. Il répondit effectivement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a informé que la tombe est la première étape des étapes de l'au-delà. إن القبر أول مراحل الآخرة. C'est la première des étapes de l'au-delà. فإن نجا منه كان بعده كان ما بعده أيسر منه. Et celui qui en est sauvé, celui qui réussit cette étape, de la tombe où les deux anges viendront t'interroger, ils te diront qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qui est cet homme qui vous a été envoyé. Si tu arrives à ce jour-là à répondre, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et cet homme est mon prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Uthman ibn Affan dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, tout ce qui viendra après sera encore plus facile. وَإِلْ لَمْ يَنْجُوا مِنْهُ كَانَ مَا بَعْدَهُ أَشَدَّ مِنْهُ. Et si par contre, l'individu dans la tombe n'est pas sauvé lors de cette première étape-là, alors tout ce qui viendra après sera beaucoup plus rude, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile pour lui. نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ. Tu vas donc rendre visite aux tombes afin de te rappeler de cette grande étape cruciale, dangereuse, que personne ne pourra jamais éviter, quand les deux anges viendront t'interroger et te demanderont sur Allah, Azza wa Jal, sur ta religion et sur ton prophète. Seuls ceux qu'Allah aura voulu aider réussiront à répondre, et c'est le sens de la parole d'Allah Azza wa Jal qui dit يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah raffermit les croyants par une parole ferme dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde, les savants ont dit في الدنيا كلمة لا إله إلا الله. C'est la parole لا إله إلا الله au moment de mourir. Allah en fera ta dernière parole. Parce que tu as été ferme dans sa religion, il te raffermira en te faisant prononcer cette parole au moment où tu seras dans le plus grand besoin d'elle. Allah t'aidera à la prononcer. Et dans l'au-delà, wa fil akhira, 'inda su'al al malakain. Dans l'au-delà, lorsque les deux anges t'interrogeront, Allah te raffermira. Tu diras, c'est Allah mon Seigneur, c'est l'islam ma religion, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mon prophète. Lorsque tu visites la tombe, c'est dans cet objectif-là. Tu te rappelles aussi que cette dunya ne vaut rien, que les gens dans cette dunya, les biens qu'ils ont amassés ne valent rien et que tout cela ne deviendra qu'un souvenir. Soit il sera bon ou alors il sera mauvais. Ibn Kathir, Ibn Rajab, rahimahullah, dit « وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ زُورُ الْقُبُورِ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ. » Le prophète صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ a dit « Visitez les tombes, car elles vous rappellent la mort. » On voit ici qu'il est légiféré de visiter les tombes, mustahab, il est recommandé de visiter les tombes, et on voit aussi al-hikma, la sagesse pour laquelle on visite les tombes, pour se rappeler de la mort. Et on voit donc le besoin que l'on a de se rappeler de la mort, car c'est un des plus grands remèdes à la dureté du cœur. Lorsque ton cœur s'endurcit, lorsque tu t'éloignes du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsque tu te mets à commettre des péchés avec aisance et facilité, rappelle-toi que tu vas mourir. Et rappelle-toi que tu mourras dans ce que tu avais l'habitude de faire. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit, « Laqad ajra al-karimu adatahu, anna man, عاش على شيء مات عليه وأن من مات على شيء بعث عليه لقد أجر الكريم عادته بكرمه. Le Allah, le généreux, le noble, a fait en sorte que celui qui vit sur quelque chose meurt sur celle-ci. Tu as une habitude dans ta vie, tu vis avec, tu as un mode de vie, tu mourras sur ce mode de vie. Et celui qui meurt sur quelque chose est ressuscité sur cette même chose. Donc si tu vis pieux et que tu es sincère et qu'Allah te raffermit, tu mourras pieux et tu seras ressuscité pieux. Et si c'est l'inverse, alors c'est le contraire, qu'Allah nous en préserve. Il y a donc un grand besoin de visiter les tombes. Et les tombes, on les visite pour méditer sur nous-mêmes, pour méditer sur le retour à Allah, sur la mort, non pas pour solliciter les morts ou les invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car là, ça serait gravissime d'agir ainsi. Wallahu musta'an. Ibn Rajab rahimallah dit ensuite, wa an buraydata anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة رواه أحمد والترمذي وصححة. D'après Buraïda, qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous avais interdit de visiter les tombes. Maintenant, visitez-les, car elles vous rappellent l'au-delà. Effectivement, quand le prophète alayhi salat wa sallam est arrivé et a reçu la mission de la prophétie, au début, il a interdit aux compagnons, aux musulmans de son époque, de rendre visite aux tombes. Les savants expliquent cette sagesse pour laquelle il leur a interdit. Ils étaient dans une étape où ils étaient en train d'éduquer leur âme sur l'unicité d'Allah, le tawhid, et sur le fait de ne s'attacher qu'à Allah et de n'invoquer qu'Allah Azza wa Jal. Et ils viennent d'un milieu où, à l'époque, ils invoquaient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marqué une pause à la visite des tombes afin de préparer les compagnons à ne s'attacher qu'à Allah seul, à n'invoquer qu'Allah seul. Puis, il leur a légiféré la visite des tombes quand ils ont compris le tawhid et l'unicité d'Allah. Ils n'allaient donc pas invoquer les morts en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme le font beaucoup de gens de nos jours, qui visitent les tombes non pas pour se rappeler leur retour à Allah, non pas pour se rappeler qu'ils mourront, mais plutôt pour invoquer les morts en leur demandant ce que l'on ne peut demander qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala, la guérison, la réussite, l'aide, le secours, qu'Allah nous en préserve. Et ça fait partie du shirk al-akbar, du polythéisme majeur qui exclut la personne de l'islam, car elle demande à un autre qu'Allah ce que seul Allah est capable d'accorder, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit, donc tout d'abord dans ce hadith-là, ici on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tudhakkiru al-akhirah. Les tombes, la visite des tombes vous rappelle l'au-delà. Dans le hadith précédent, vous rappelle la mort. Et ça va ensemble. La mort et l'au-delà vont ensemble. Ibn Rajab rahimahullah dit wa an anasin anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala kuntu qad nahaytukum an ziyarati al-qubur ثم قد بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرا رواه الإمام أحمد وابن أبي الدنيا. Anas, qu'Allah l'agré, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous avais interdit de rendre visite aux tombes. Il m'est apparu qu'elles adoucissent le cœur et qu'elles font couler les larmes, tout comme elles vous rappellent l'au-delà. Alors maintenant, visitez-les, et ne prononcez pas de mauvaises paroles. Wala taqulu hujra. Ne prononcez pas de mauvaises paroles. Al-hujr, c'est al-fuhshu fil kalam. Ce sont les paroles très négatives, très mauvaises. Il est interdit de prononcer de mauvaises paroles lorsque tu visites les tombes. Et parmi les mauvaises paroles, le fait d'invoquer autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le fait de solliciter un autre qu'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est une preuve contre ceux qui visitent les tombes et qui les invoquent en dehors d'Allah. Le prophète a dit « وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا » et ne prononcez pas de mauvaises paroles. Donc on voit l'importance de la visite des tombes et qu'il y a des règles de bienséance à respecter. Il y a un adab, un comportement à avoir. On ne doit pas dire de mauvaises choses lorsque l'on visite une tombe. On apprend également de ce hadith que parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit des choses, puis il va abroger cette interdiction, ou alors il va l'annuler afin de la remplacer par ce qui convient à sa communauté sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que le prophète alayhi salatu wa sallam dise « Wala taqulu hujra » ne dites pas de mauvaises paroles, nous montre que il y a une visite des tombes qui est légiférée, c'est celle qui se fait avec les règles de bienséance à respecter, et celles qui sont faites dans l'objectif de se rappeler l'au-delà. Mais dès lors que la personne prononcerait des mauvaises paroles, cette visite deviendrait pour elle interdite. Il est donc interdit de faire ces visites innovées que ces gens-là font, qu'Allah nous en préserve. Ensuite, l'imam Ibn Rajab rahimahullah a rapporté quelques textes, quelques paroles, parmi lesquels وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ قَالَ كَانَ صَفْوَانُ بْنُ سَلِيمٍ يَأْتِي الْبَقِيعَ فِي الْأَيَّامِ فَيَمُرُّ بِي فَاتَّبَعْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ. Ça, c'est un des salafs, Muhammad ibn Salih, qui raconte qu'un autre qui est appelé Safwan ibn Salim allait visiter le cimetière du Baqi' à Médine. Le cimetière du Baqi', c'est le cimetière connu où beaucoup des sahaba, des compagnons, sont enterrés. Et Muhammad dit que Safwan allait souvent visiter le Baqi' et qu'il passait devant lui. Il dit alors un jour, j'ai pris la décision de le suivre pour voir ce qu'il allait faire. وَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأَنْظُرَنَّ مَا يَصْنَعُ. Et j'ai dit, par Allah, je vais voir ce qu'il fait. قَالَ فَقَنَّعَ رَأْسَهُ وَجَلَسَ إِلَى قَبْرٍ مِنْهَا. Muhammad dit que Safwan s'est alors assis près d'une tombe et il s'est cagoulé. Il s'est cagoulé, c'est-à-dire qu'il a entouré sa tête d'un turban ou d'un tissu pour cacher sa tête. Et il s'est assis à côté d'une tombe. فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى رَحِمْتُهُ. Muhammad dit, Safwan n'a cessé de pleurer jusqu'à me faire pitié. قَالَ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَبْرُ بَعْضِ أَهْلِ. J'ai pensé qu'il s'agissait de la tombe d'un de ses proches. قَالَ فَمَرَّ بِي مَرَّةً أُخْرَى فَاتَّبَعْتُهُ فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِ قَبْرِ غَيْرِهِ. Un autre jour, il est passé près de moi en direction de la tombe encore une fois, du cimetière. Je l'ai suivi et je l'ai vu s'asseoir près d'une autre tombe, une tombe différente de celle à côté de laquelle il pleurait. فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. Et il s'est mis à faire la même chose. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ. Muhammad ibn Salih, qui a scruté Safwan, dit « Je suis alors allé raconter cela à Muhammad ibn al-Munkadir, un des salafs qui est également connu. وَقُلْتُ إِنَّمَا ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَبْرُ بَعْضِ أَهْلِهِ. Et je lui ai dit, je pensais que c'était la tombe d'un de ses proches. فَقَالَ Muhammad ibn al-Munkadir a dit à Muhammad ibn Salih, qui est venu lui raconter ce qu'il a vu, il lui dit, كُلُّهُمْ أَهْلُهُ وَإِخْوَانُهُ. Ce sont tous les membres de sa famille et ses frères. إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ يُحَرِّكُ قَلْبَهُ بِذِكْرِ الْأَمْوَاتِ. En réalité, il ne s'agit là que d'un homme qui cherche à faire bouger son cœur par le rappel des morts. ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ قَسْوَةً. قَالَ ثُمَّ جَعَلَ مُحَمَّدْ إِبْنُ الْمُنْكَدِرِ بَعْدُ يَمُرُّ بِي فَيَأْتِي الْبَقِيعَ. فسلمت عليه ذات يوم فقال ما نفعتك موعظة صفوان قال فظننت أنه انتفع بما ألقيت إليه منها. Et alors, Mohammed ibn Salih, qui est celui qui voyait Safwan rendre visite à la tombe, pleurer, rendre visite à une deuxième, une troisième et faire ça tous les jours à chaque fois avec des tombes différentes, il a raconté donc ça à Mohammed ibn al-Munkadir. Mohammed ibn al-Munkadir s'est mis à faire la même chose que Safwan. Et Mohammed ibn Salih voit maintenant Mohammed ibn al-Munkadir aller rendre visite à tes tombes et faire pareil que lui, pleurer. Et il dit à Safwan l'exhortation. Et il dit pareil, pardon, à Mohammed ibn Salih, il lui dit « L'exhortation de Safwan ne t'a pas été utile à toi ? Le fait que tu le vois à chaque fois aller visiter les tombes pour se rappeler de la mort, ça ne t'a rien fait. Toi, tu ne fais pas comme lui. » Subhanallah. Regardez comment étaient les salafs. Ibn Rajab, rahimahullah, dit وذكر أيضا أن عجوزا متعبدة من عبد القيس كانت تكثر إتيان القبور فعوتبت في ذلك فقالت إن القلب القاسي إذا جفا لم يلينه إلا رسوم البلا وإني لآتي القبور وكأني أنظر إليهم وقد خرجوا من بين أطباقها وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة وإلى تلك الأجسام المتغيرة وإلى تلك الأكفان الدنسة فيا له من منظر لم أسر به قلوبهم ما أنكل مرارة الأنفس وأشد تلفة الأبدان. Il fut dit que une vieille femme pieuse assidue dans l'adoration, faisait régulièrement des va-et-vient. Elle rendait visite aux tombes. Elle s'est fait disputer à ce sujet-là. Elle répondit « Le cœur dur, lorsqu'il devient sec, ne peut l'adoucir que rusumul bila. » Rusumul bila, c'est-à-dire les traces de la disparition. Lorsque tu vas rendre visite aux tombes et que tu vois les traces de la disparition de cette personne qui est décédée, cette femme lui dit « Il n'y a que ça qui fait adoucir le cœur. Et quand je viens visiter ces tombes, je m'imagine comme si je les regardais alors qu'ils étaient sortis des tombes avec des visages ternis, des corps qui ont changé de forme parce qu'ils sont dans les tombes. » C'est-à-dire qu'elle s'imagine quand elle rend visite à ces morts qu'ils sont sortis de la terre et qu'ils sont en train de lui montrer ce qu'ils sont devenus. Le corps qui a terni, le corps qui a changé, le linceul qui est devenu souillé parce qu'il est resté longtemps en dessous de la terre. Et elle dit que en gros que le rappel de la mort est quelque chose qui est dur. Et bien sûr, c'est utile. Ibn Rajab rahimahullah continue wa qala Ziyad An-Numayri mashtaqtu ila al-buka'i illa marartu alayh qala lahu rajul wa kayfa dhalik قال إذا أردت ذلك خرجت إلى المقابر فجلست إلى بعض تلك القبور ثم فكرت فيما صاروا إليه من البلا وذكرت ما نحن فيه من المهلة قال فعند ذلك تختفي أطواري. زياد النميري disait: Je n'ai jamais eu le manque de pleurer sans le faire. Je n'ai jamais eu le besoin. Je n'ai jamais ressenti le manque, le besoin de pleurer sans le faire. Quelqu'un lui dit « Et comment cela ?» Il répondit « Chaque fois que je le veux, chaque fois que je veux pleurer, je sors dans les cimetières. Je m'assois à côté de ces tombes et je réfléchis sur ce qu'ils sont devenus et sur leur disparition. Et je réfléchis aussi sur le répit qui nous est accordé à nous. À ce moment-là, ça lui fait de l'effet. Ensuite, l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a écrit quelques vers de poésie qui sont bénéfiques et qui sont magnifiques en rapport avec le sujet. Je vais les lire en arabe et donner une traduction approximative, insha'Allah ta'ala. Ce sont donc des vers de poésie qui sont un rappel que le croyant doit se faire et des questions qu'il doit se poser. Et ça te montre combien était pieux cet imam, l'imam Ibn Rajab. Car quand il écrit ce livre, il se conseille lui-même avant de conseiller les autres. Au point où il va s'adresser à son âme, comme vous allez l'entendre, inshallah ta'ala. Ibn Rajab a dit, « وَقُلْتُ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ » Et j'ai dit, et Allah apporte le succès. J'ai dit, c'est-à-dire dans les vers de poésie qui vont suivre. « أَفِي دَارِ الْخَرَابِ تَظَلُّ تَبْنِي وَتَعْمُرُ مَا لِعُمْرَانِ خُلِقْتَ وَمَا تَرَكَتْ لَكَ الْأَيَّامُ عُذْرًا لَقَدْ وَعَظَتْكَ لَكِمْ مَتَّعَظْتَ تُنَادِي لِلرَّحِيلِ بِكُلِّ حِينٍ وَتُعْلِنُ إِنَّمَا الْمَقْصُودُ أَنْتَ وَتُسْمِعُكَ النِّدَاءَ وَأَنْتَ لَاهٍ عَنِ الدَّاعِي كَأَنَّكَ مَا سَمِعْتَ وَتَعْلَمُ أَنَّهُ سَفَرٌ بَعِيدٌ وَعَنْ إِعْدَادِ زَادٍ قَدْ غَفَلْتَ. Je m'arrête sur cette partie, je l'explique et on passe à l'autre partie. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dit: أَفِي دَارِ الْخَرَابِ تَظَلُّ تَبْنِي. Est-ce dans une demeure en ruine que tu continues à construire? وَتَعْمُرُ مَا لِعُمْرَانٍ خُلِقْتَ. Et tu embellis. Ce n'est pas pour cela que tu as été créé. Là, il te fait passer un message. Il te dit, toi le faible serviteur, qui cherche à construire dans cette vie, à s'installer ici, est-ce dans une demeure en ruine que tu continues à construire? Tu marques tous tes projets, tu attaches tous tes souhaits, toutes tes envies, tes objectifs, tu ne les rattaches qu'à cette vie d'ici-bas, à l'image de quelqu'un qui cherche à construire, alors qu'il est dans une demeure en ruine. À quoi ça sert de construire dans une demeure en ruine? Et tu embellis, ce n'est pas pour ça que tu as été créé. Tu n'as pas été créé pour construire, embellir. Si ça te distrait du rappel d'Allah, de l'obéissance à Allah. Et je me souviens, subhanallah, d'une histoire avec Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah. Lorsque le gouverneur, le roi de son époque, est allé lui rendre visite dans sa maison, sachant que Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah, habitait dans une maison modeste. Le roi est allé lui rendre visite à son domicile, car il respectait les ulama, jazahumullahu khayran. Il est allé voir le Cheikh Ibn Uthaymin et a vu cette maison modeste dans laquelle il habitait, et lui a dit, je te propose de te construire une maison, c'est-à-dire pour te permettre d'être plus à l'aise. Ibn al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, un homme qui construit pour l'akhira, l'a grandement remercié pour cette belle proposition, et lui a dit, je suis actuellement en train de construire une maison, et il lui a cité un quartier de Mecca, je crois que c'est Salahiyya, je ne me souviens plus du nom du quartier. À la fin de la visite, le roi s'en est allé et l'assemblée qui était avec le cheikh lui dit, nous ne savions pas que tu construisais une maison à tel endroit. Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah a répondu, n'est-ce pas que c'est l'endroit où il y a le cimetière? Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'il leur a dit, je suis en train de préparer ma tombe, j'ai pas besoin de maison moi. Je prépare ma tombe. Ça ne veut pas dire que on blâme le fait de construire une maison. Comprenez bien. Ça ne veut pas dire ça. C'est tout à fait licite. C'est bien. On encourage même, il n'y a pas de souci. Ça veut dire qu'on parle de quelqu'un qui est attaché à l'au-delà. Ibn Rajab a dit, est-ce dans une demeure en ruine que tu continues à construire et que tu embellis? Ce n'est pas pour ça que tu as été créé. وَمَا تَرَكَتْ لَكَ الْأَيَّامُ عُذْرًا لَقَدْ وَعَظَتْكَ لَكِنْ مَتَّعَظْتَ. Les jours ne t'ont laissé aucune excuse. Ils t'ont averti, ils t'ont exhorté, mais tu ne t'es pas laissé exhorter. Les jours qui passent, Al-Hassan al-Basri rahimahullah a dit, Yabna Adam, innama anta ayyamun majmou'a. Ô fils d'Adam, tu n'es qu'un groupe, tu n'es qu'un nombre de jours regroupés. Idha dhahaba yawmuk, dhahaba ba'duk. Lorsqu'un jour s'en va, c'est une partie de toi qui part. C'est-à-dire jusqu'à ce que tu arrives au jour de ta mort. Les jours ne t'ont laissé aucune excuse. Les jours sont un signe. Les jours, l'alternance de la des jours et des nuits sont pour toi une exhortation qui ne te laisse aucune excuse. Ils t'ont averti, mais tu ne t'es pas laissé avertir. Tunadi lirrahil bi kulli hinin wa tu'linu innama al-maqsud anta. Ces jours qui passent appellent à chaque instant et déclare que c'est toi qui es visé. Il t'appelle sans cesse au départ et te rappelle que c'est toi qui es visé. Wa tusmi'uka an-nida'a wa anta lahin 'an ad-da'i ka'annaka ma sami'ta. Et ces jours-là te font entendre l'appel, mais tu es distrait. Tu es distrait comme si tu n'avais rien entendu. Ça, c'est la réalité de notre mode de vie. C'est une réalité. Les jours passent, nos seuls soucis sont en rapport avec la dunya. On sait qu'on est appelé à l'akhirah. On sait qu'on est conduit à Allah. Mais notre insouciance nous empêche de voir cet appel. Nous sommes troublés, nous sommes affectés, parce que nous avons mis dans notre cœur des attachements à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si bien que l'un d'entre nous, l'une d'entre nous, est capable de se préparer pour un projet mondain comme jamais il ou elle ne se préparerait pour un projet de la rencontre d'Allah, le plus grand des projets, subhanahu wa ta'ala. وتعلم أنه سفر بعيد وعن إعداد زاد قد غفلته. Et tu sais qu'il s'agit d'un long voyage, mais tu as négligé la préparation de ta provision. Tu sais que c'est un long voyage qui t'attend et qui va commencer dans l'akhirah. En réalité, ce voyage-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attrapé par les épaules Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma un jour et lui a dit « Kun fi dunya ka annaka gharib ou abiru sabil. » Sois dans cette vie d'ici-bas à l'image d'un étranger ou d'un passant. L'étranger est quelqu'un qui vit dans une terre qui n'est pas la sienne. Même s'il y vit, il est là pour un objectif, mais il veut retourner dans sa terre. Le passant est quelqu'un qui traverse cette terre sans s'arrêter. Il n'a pas envie de s'y arrêter. Tu dois être comme l'un ou l'autre. Tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi ici. Le croyant chez lui, c'est l'akhirah, c'est le jannah. C'est pour ça que Ibn Rajab, rahimahullah, dans son livre Jami'ul Ulum wal Hikam, son explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, lorsqu'il explique ce récit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend Abdullah ibn Omar par les deux épaules et lui dit « Sois dans cette vie d'ici-bas à l'image d'un étranger ou d'un passant », il explique que nous les croyants, nous sommes dans cette vie des étrangers et des passants. Ce n'est pas chez nous ici. Parce que la base de la demeure du croyant, c'est al-Jannah. À la base, le croyant, il doit être fil Jannah. C'était le cas du premier homme, Adam alayhi salam. Il était fil Jannah, dans le paradis. Mais il a été sorti du paradis à cause de sa désobéissance à Allah Azza wa Jal. Puis, Allah nous a éprouvés dans cette vie d'ici-bas par les ordres et les interdits qu'il a prescrits afin de voir qui d'entre nous va gagner son retour à la maison mère, qui est le paradis. Allahu Akbar. وَعَنْ إِعْدَادِ زَادٍ قَدْ رَفَلْتَ. Tu as négligé de préparer ta provision. Ta provision pour quoi? Ta provision pour le retour à Allah, le Seigneur des mondes, pour le retour à la vraie demeure, la demeure du paradis. Ibn Rajab dit, تَنَامُ وَطَالِبُ الْأَيَّامِ سَاعٍ وَرَاءَكَ لَا يَنَامُ فَكَيْفَ نِمْتَ. Tu dors, c'est-à-dire tu es endormi dans ton insouciance. Tu dors. Alors que l'appeleur des jours court derrière toi et ne dort pas. Comment as-tu pu dormir? Tu dors alors que les jours sont là à t'appeler à revenir à Allah. Ils courent derrière toi et t'appellent sans cesse et ne dorment pas. Comment toi peux-tu dormir? Il dit ensuite, pour blâmer cette vie d'ici-bas, « Ma'aibu hadhihi dunya kathirun » Les défauts, les tares de cette vie d'ici-bas sont nombreux. Et pourtant, tu es né avec un cœur porté à l'aimer. Cette dunya a tellement, subhanallah, a tellement d'imperfections. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, طبعت على كدر فكيف تنالها صفوا هذا قط في الإمكان. Cette dunya a été créée dans sa nature avec plein de défaillances, plein d'imperfections, plein d'impuretés. Comment alors pourrais-tu l'obtenir pure? C'est quelque chose d'impossible. Et vous n'avez qu'à méditer, chacun médite sur sa propre vie et sur la vie des gens qui l'entourent, sur le grand nombre de problèmes que les gens vivent. Tu vois la personne qui arrive au summum de ce que l'on voudrait bien avoir dans cette vie, en termes de réussite, et au final c'est cette même personne qui se plaint de mal vivre. Allahu Akbar. Et quand tu médites sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois qu'il était pauvre, et qu'en réalité, c'était l'homme le plus heureux et le plus riche. Ce qui te montre que les défauts de son monde, de ce bas monde, sont nombreux. Et pourtant, tu es né avec un cœur qui est porté à l'aimer. يَضِيعُ الْعُمْرُ فِي لَعِبٍ وَلَهْوٍ وَلَوْ أُعْطِيتَ عَقْلًا مَا لَعِبْتَ. Ibn Rajab dit, la vie est gâchée dans l'amusement et le divertissement. Et si tu avais eu une raison saine, tu n'aurais pas joué. Tu n'aurais pas perdu autant de temps dans ces distractions, dans ces amusements, alors qu'il s'agit de quelque chose de sérieux. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, « Wallahi lau ta'lamuna ma a'lam » par Allah, si vous saviez ce que je sais, c'est-à-dire, si vous aviez vu ce que j'ai vu et su ce que j'ai su du châtiment de la tombe, du feu de l'enfer, de la colère d'Allah le jour dernier. La dahiktum qalila wa la bakaytum kathira. Vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Si tu avais une raison saine, tu n'aurais pas joué. Méditons sur notre vie. On passe notre temps à jouer dans les divertissements, comme si on n'allait jamais mourir, comme si on n'avait pas de compte à rendre, comme si on n'avait pas de péché. Allah musta'an. Ibn Rajab dit ensuite, فَمَا بَعْدَ الْمَمَاتِ سِوَى جَحِيمٍ لِعَاصٍ أَوْ نَعِيمٍ إِنْ أَطَعْتَ. Après la mort, il n'y aura donc que l'enfer pour le désobéissant, ou le paradis si tu as obéi. وَلَسْتَ بِآمِلٍ رَدًّا لِدُنْيَا فَتَعْمَلَ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتَ. Et tu ne pourras pas espérer de retour vers cette vie d'ici-bas pour agir pieusement dans ce que tu avais délaissé. Comme Allah Azza wa Jal dit, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ, jusqu'au moment où la mort arrive à l'un d'entre eux. قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ, il se met à dire, ô Seigneur, fais-moi revenir dans cette vie d'ici-bas. Pourquoi? لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتَ, peut-être vais-je faire le bien que j'avais délaissé. Wallahi, ça sera le plus grand souhait de la personne qui mourra. De revenir ici, ne serait-ce que pour faire deux rak'ah, ou que pour lever ses mains et demander le pardon d'Allah, ou alors donner une aumône, une sadaqa, ou demander pardon à la personne à qui on a causé du tort. Ça sera le plus grand souhait. Mais ça ne sera pas possible. C'est pour ça qu'un jour, un salaf est allé visiter les tombes. Il a rencontré quelqu'un et lui a dit, imagine-toi être à la place de ce mort qui est enterré en ce moment. Quel serait ton plus grand souhait? Il répondit, de revenir, ne serait-ce qu'un instant pour faire une bonne action, peut-être qu'Allah va me pardonner par elle. Il lui dit, eh bien, sache qu'Allah t'a accordé ta demande. Tu es là, alors œuvre. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dit ensuite, wa awwalu man alumu al-yawma nafsi, فَقَدْ فَعَلَتْ نَظَائِرَ مَا فَعَلْتَ. Et ça te montre la piété de cet homme-là et la modestie de cet homme-là. Il dit, et la première personne que je blâme aujourd'hui, c'est bien moi-même, car mon âme a commis ce que toi aussi tu as fait. Tout ce que je suis en train de te dire, moi-même je l'ai fait. Tout les péchés, tous les manquements, je les ai moi-même. Et par ces mots-là, je ne cherche qu'à rappeler ma personne avant tout. Puis là, il va s'adresser à lui-même. Il va parler à lui-même et c'est ainsi que doit être le croyant. Le croyant doit se sentir concerné par le rappel. Il écoute un rappel et ne se dit pas qu'il s'agit d'autres personnes. Il doit se sentir le premier concerné. Ibn Rajab dit, « Aya nafsi » أخوضا في المعاصي وبعد الأربعين وغب ستة. Il dit, ô mon âme, là il parle à lui-même, ô mon âme, vas-tu rester plongé dans les péchés après 40 ans et voilà que tu en as 46. Ce qui montre que quand il a écrit cette risala, cet écrit ذم قسوة القلب, et ce poème, il avait 46 ans. Alayhi rahmatullah. À 46 ans, il s'est remis en question. Et lorsque tu atteins l'âge de la quarantaine, tu atteins l'âge de la pleine maturité. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a donné la prophétie au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à 40 ans. Lorsque tu atteins l'âge de 40 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Tu te rapproches de plus en plus de la mort. Tu atteins l'âge de la pleine maturité. Et là, il se dit à lui-même, ô mon âme, restes-tu plongé dans les péchés après 40 ans et voilà que tu en as 46? Allahu Akbar. Il dit ensuite, rahimahullah, wa arju an yatul al-umr hatta ara zad al-rahil wa qad ta'atta. Subhanallah, il dit, et j'espère avoir une longévité dans ma vie afin de voir que ma provision est prête. Là, il parle de lui-même. Il dit, j'espère vivre longtemps et avoir assez de temps pour faire beaucoup de bonnes actions, pour se préparer et pour avoir la provision du départ vers l'au-delà. Sachant qu'Ibn Rajab est décédé à 59 ans, rahimahullah, il est donc mort 13 ans après avoir formulé ce souhait. نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته. On demande à Allah Azza wa Jal de lui faire habiter son vaste paradis et de réaliser son souhait. رحمه الله رحمة واسعة. Il dit, j'espère vivre longtemps afin d'avoir assez de temps pour me préparer et trouver une provision qui soit prête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khayrun nasi man tala umuruh wa hasuna amaluh » Le meilleur des gens est celui qui vit longtemps et qui fait des bonnes actions. Et quand tu demandes à Allah une longue vie, tu ne dois pas t'arrêter là. Ça ne suffit pas d'avoir une longue vie. Il faut que tu demandes à Allah une longue vie accompagnée de bonnes actions, avec la bonne santé, qui te permet ces bonnes actions justement. Ibn Rajab, rahimallah, continue maintenant et il s'adresse à une étape de la vie qui est la jeunesse. Il s'adresse et lui dit « Aya rusna shabab tamilu zahwan » كَأَنَّكَ قَدْ مَضَى زَمَنٌ وَشِبْتَ Ô branche de jeunesse, tu te penches avec fierté, comme si le temps ne t'avait pas encore blanchi. Il s'adresse à cet âge de la vie, la jeunesse, qui est l'âge où l'homme est enclin à l'orgueil, à l'insouciance, comme si tu n'allais jamais vieillir, comme si tu n'allais jamais mourir parce que tu es jeune. Alors que la jeunesse doit être exploitée en préparation à l'éventuelle vieillesse si Allah t'accorde longue vie. Ensuite, il dit « Alimta fada' sabil al-jahl wahdhar wa sahih qad alimta wa ma amilta » Maintenant, tu sais. Après ce rappel-là, tu as su. Tu as su la vérité. Délaisse alors le chemin de l'ignorance et prends garde et réforme-toi, car certes, tu as su, mais tu n'as pas agi. Ensuite, il dit « وَيَا مَنْ يَجْمَعُ الْأَمْوَالَ قُلِّي أَيَمْنَعُكَ الرَّدَى مَا قَدْ جَمَعْتَ » Ô toi qui amasses les biens, ô toi qui accumules les biens, toi qui ne fais que de s'enrichir, dis-moi. J'ai quelque chose à te dire, j'ai une question à te poser. Tous les biens que tu amasses t'empêcheront-ils de mourir, de vieillir puis de mourir? وَيَا مَنْ يَبْتَغِي أَمْرًا مُطَاعًا لِيُسْمَعَ نَافِذًا مَنْ قَدْ أَمَرْتَ Ô toi qui cherches à te faire obéir, il parle de ceux qui cherchent à avoir le pouvoir, à être obéis. Ô toi qui cherches à te faire obéir et voir exécuter tes ordres à qui tu ordonnes. Ajajta ila al-wilayati la tubali. Ajirta ala al-bariyati am adalta. Tu as couru vers le pouvoir sans te soucier. Qu'as-tu fait des gens? As-tu été juste ou tyrannique? Tu t'en fiches de ça. Ce qui t'incombe, ce que tu cherches, toi, c'est de ramasser l'argent, de ramasser le pouvoir, de commander, d'être un tyran, d'être le plus fort, faible que tu es et pauvre que tu es. Tu as couru derrière le pouvoir sans te soucier de ton comportement envers les gens pour lesquels tu as autorité. Est-ce que tu as été juste? Ou alors, est-ce que ces milliers de personnes viendront demander leur droit à Allah le jour dernier quand tu seras nu et dévêtu, faible, pauvre, indigent, et tu ne pourras rien faire d'autre que demander le pardon d'Allah s'il veut bien te l'accorder? Il dit ensuite « Ala tadri bi annaka yawma sarat ilayka bi ghayri sikkinin dhubihta » Ne sais-tu pas que lorsque le pouvoir t'a été confié, tu t'es fait égorger sans couteau. Allahu Akbar. Tu as voulu le pouvoir, tu l'as obtenu, miskin. Tu viens de te faire égorger sans couteau. Tu le comprendras le jour où tu rencontreras Allah, quand tu devras rendre compte de toutes ces responsabilités que tu as choisi de supporter. Alors que les salafs, les pieux prédécesseurs, quand on voulait leur confier la mission de la gouvernance, ils disparaissaient, ils fuyaient, ils déménageaient. Tellement ils avaient peur de ce qu'ils allaient répondre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Rajab continue. وَلَيْسَ يَقُومُ فَرْحَةُ قَدْ تَوَلَّى بطرحتي يوم تسمع قد عزلت. Et la joie d'un jour passé ne compensera pas la douleur du jour où tu apprendras que tu as été destitué. C'est-à-dire que lorsqu'on t'a dit « ça y est, tu es gouverneur, ça y est, c'est toi qui commandes, tu es le patron, tu es le directeur, tu es le chef, tu es je ne sais quoi », tu as éprouvé une joie, elle ne va même pas tenir un moment jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par le jour où tu entendras qu'on te dira « maintenant tu es destitué ». Subhanallah, méditez ce qui se passe en ce moment dans certains pays où des gens ont commis ce qu'ils ont commis comme crime envers une communauté entière et les voici maintenant qu'ils ont pris la fuite comme des vagabonds, comme des moins que rien. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tayyib. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dit ensuite وَلَا تُهْمِلْ فَإِنَّ الْوَقْتَ يَسْرِي فَإِنْ لَمْ تَغْتَنِمْهُ فَقَدْ أَضَعْتَ. Et ne perds pas ton temps, ne le gâche pas, car le temps court, et si tu n'en profites pas, alors tu l'auras perdu. تَرَى الْأَيَّامَ تُبْلِي كُلَّ غُسْنٍ وَتَطْوِي مِنْ سُرُورِكَ مَا نَشَرْتَ. Tu vois les jours, qui flétrissent chaque branche, les jours qui usent les branches, comme les branches de l'arbre s'usent et tombent les unes après les autres. Après avoir été des branches solides, fortes, tu les vois qui commencent à pencher, à devenir de plus en plus faibles, et jusqu'à leur disparition. C'est ainsi que les jours font. Et وَتَطْوِي مِنْ سُرُورِكَ مَا نَشَرْتَ. Et ces jours-là, plie les joies que tu avais déployées. Tu as ouvert le bonheur, tu as déployé les feuillets de la joie, et les jours t'ont rattrapé et les ont pliés pour laisser derrière l'amertume et la tristesse. وَتَعْلَمُ إِنَّمَا الدُّنْيَا مَنَامٌ فَأَحْلَى مَا تَكُونُ مَا إِذَا انْتَبَهْتَ فَأَحْلَى مَا تَكُونُ إِذَا انْتَبَهْتَ. Et tu sais que ce monde, cette vie d'ici-bas n'est qu'un sommeil. Le plus doux moment, c'est quand tu te réveilles. C'est-à-dire lorsque tu t'endors dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, fier de lui avoir obéi, fier d'avoir été à son service, son esclave, avec les invocations. Tu te lèves le matin pour la salat, tu te lèves dans un moment où tu es content d'être le serviteur d'Allah. Ensuite, il dit فَكَيْفَ تَصُدُّ عَنْ تَحْصِيلِ بَاقٍ وَبِالْفَانِ وَزُخْرُفِهِ شُغِلْتَ. Si tu sais que ce monde n'est qu'un sommeil. Ce monde, c'est comme un sommeil. Tu dors et tu te réveilles, mais tu te réveilles au mal qiyam. Celui qui s'est endormi dans l'obéissance d'Allah et qui se lève dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, se lèvera bien. Pareil pour celui qui vit dans l'obéissance d'Allah, il est ressuscité bien le jour dernier. Si tu sais que ce monde-là est à l'image d'un sommeil, alors pourquoi négliger? Pourquoi ce monde-là te détourne d'un monde éternel? وَبِالْفَانِ وَزُخْرُفِهِ شُغِلْتَ. Et tu as été distrait par le décor éphémère de ce bas monde. Ce monde est faux. C'est la plus grande illusion, subhanallah. Il dit, hiya dunya. Il va te présenter ce bas monde. Décris-moi ce bas monde. Il te répond, hiya dunya, idha sarratka yawman, tasu'uka dhi'fa ma fiha surirta. Il s'agit de la vie d'ici-bas, qui lorsqu'elle te réjouit un jour, elle te fait souffrir deux fois plus qu'elle ne t'a réjoui. Tu es heureux une fois, malheureux deux fois. Parce que c'est la dunya, elle est comme ça. Ne t'attache pas à cette dunya. Ne mets pas tes espoirs dans cette dunya. Ne mets pas tous tes objectifs en elle. Car comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, la vie d'ici-bas est comparable à une prostituée. Elle ne reste avec aucun homme. Allahu Akbar. Ibn Rajab rahimallah continue: تَغُرُّكَ كَالسَّرَابِ فَأَنْتَ تَسْرِي إِلَيْهِ وَلَسْتَ تَشْعُرُ إِنْ غُرِرْتَ. Cette vie d'ici-bas te trompe comme un mirage qui t'attire. Tu es dans le désert et tu crois qu'il y a un lac. Et tu avances sans voir que tu es trompé. Tu arrives, il n'y a rien du tout. وَأَشْهَدُ كَمْ أَبَادَتْ مِنْ حَبِيبٍ كَأَنَّكَ آمِنٌ مِمَّا شَهِدْتَ. Sois témoin de combien de proches ce bas monde a anéanti. Et tu fais comme si tu étais épargné de ce que tu as vu. Comme si toi-même tu n'allais pas mourir comme eux. وَتَدْفِنُهُمْ وَتَرْدِعُ ذَا سُرُورٍ بِمَا قَدْ نِلْتَ مِنْ إِرْثٍ وَحَرْثًا. Tu les enterres, tu enterres ces gens-là. Puis tu rentres joyeux et heureux parce que tu vas hériter de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Et c'est une bien triste réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que lorsque tu meurs, tu es suivi par trois choses. Une seule reste avec toi et deux repartent. Tes actions, les biens que tu as laissés et les membres de ta famille. On termine ton enterrement, les actions restent avec toi. Et les biens que tu as laissés vont être l'objet de la dispute. Subhanallah, combien de gens se sont disputés au lieu de se rappeler la mort de leurs proches et que eux aussi ils vont mourir et qu'ils vont être jugés. Ils sont là à se bagarrer pour les centimes de cette vie d'ici-bas, au point de ternir leur relation fraternelle entre eux. Allahu Akbar. Tu les enterres, puis tu rentres heureux, parce que tu vas hériter de ce qu'ils ont laissé derrière eux. وَتَنْسَاهُمْ وَأَنْتَ غَدًا سَتَفْنَا كَأَنَّكَ مَا خُلِقْتَ وَلَا وُجِدْتَ. Puis tu les oublies, nous dit Ibn Rajab. Tu les enterres, pendant un jour, deux jours, allez, un mois, deux mois, peut-être plus, tu vas parler d'eux, puis après tu vas les oublier. Et toi aussi, tu vas disparaître, comme si tu n'avais jamais existé. Subhanallah. Il y a des gens qu'on a vus, on a vécu avec, on les a côtoyés, ils sont partis, comme s'ils n'avaient jamais vécu. Je me souviens là maintenant d'un ami proche, Nu'man ibn Hassan, rahimahullah, rahmatan wasi'a. On marchait avec lui, on parlait avec lui, on prenait de ses nobles conseils, on voyait son noble comportement, un homme pieux, convaincu, d'après ce qu'il nous est apparu, et seul Allah juge les gens de ce qu'ils sont. Il a vécu humblement, il a été atteint d'un cancer, rahimahullah. Il s'est conditionné, il a dressé son âme à la patience comme je n'ai jamais vu. Il a enduré, il a supporté, il ne se plaignait pas. Il entendait le rappel d'Allah, ses yeux débordaient de larmes. Il était convaincu en son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Puis il est parti. Rahimahullah, Allahumma askinhu fasiha jannatik. Allahumma wassi' qabrahu madda basarih. Allahumma arhamhu rahmatan wasi'a. Warham ma'ahu jami'a maut al-muslimin. Qu'Allah lui fasse miséricorde à lui et à ceux qui étaient avec lui et à tous les musulmans. D'ailleurs, j'ai prononcé un discours du vendredi en son nom que je vous conseille d'écouter, disponible dans le site La Voix Droite. Ainsi, vous allez invoquer Allah pour lui. Incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Puis tu les oublies alors que demain tu mourras, comme si tu n'avais jamais existé. Écoutez bien ce qui va suivre. Tuhaddithu anhumu wa taqulu kanu. Na'am kanu kama wallahi kunta. Tu parles d'eux et tu dis ils étaient. C'est-à-dire que tu parles de ces gens-là qui ont vécu avec toi, tu parles au passé puisque maintenant ils sont morts, ils ne sont plus là. Et tu dis je me souviens, un tel, un jour il m'a dit telle chose ou il était dans tel endroit. Donc tu parles d'eux au passé et tu dis ils étaient. Oui, ils étaient comme toi tu étais. C'est-à-dire comme le jour où quand tu seras mort, on dira de toi, je me souviens de lui, il était. On parlera de toi au passé. Subhanallah. يعود المرء بعد الموت ذكرا فكن حسن الحديث إذا ذكرته. Ibn Rajab rahimahullah dit: après la mort, l'homme devient un souvenir. C'est-à-dire que quand tu vas mourir, tu deviens pour les gens un souvenir. Fais donc en sorte d'être un bon souvenir quand on se rappellera de toi. Fais que tu sois de bonne réputation. Et c'est ça concorde avec l'invocation du prophète Ibrahim alayhi salam, qui a demandé à Allah et qui a dit: waj'alli lisana sidqin fil akhirin, et accorde-moi une langue véridique dans les générations suivantes. Les savants qui expliquent ce verset disent, c'est-à-dire qu'il a demandé à Allah de lui laisser un bon souvenir chez les gens. Certes, Allah l'a exaucé, la preuve, regardez comment on parle de lui. Tu dois tout faire pour être un bon souvenir après ta mort. Des fois, tu dois te remettre en question et te dire, si je meurs maintenant, est-ce qu'on va parler en moi de bien ou en mal? En bien ou en mal? Un jour, on est passé, le prophète alayhi salam était avec ses compagnons, on est passé devant lui avec une janaza, on tenait un cadavre pour aller l'enterrer. Il dit, qu'est-ce que vous pensez de lui? Ils disent, nous ne connaissons de lui que du bien. Le prophète alayhi salam dit, il lui revient alors de droit. Un deuxième mort va passer, il va dire, qu'est-ce que vous pensez de lui? Et eux vont répondre, nous connaissons de lui du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, alors il lui revient de droit. Il dit, le premier c'est le paradis qui lui revient de droit, et le deuxième c'est l'enfer. Vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Alors je te pose la question. Je te pose une question mon frère, je te pose une question ma sœur. Qu'est-ce que les témoins d'Allah diront de toi si tu meurs maintenant? Les témoins d'Allah, les gens qui t'ont vu, les gens que tu as côtoyés, les gens qui t'ont entendu, qui ont vu ton comportement, qui ont écouté tes paroles, qu'est-ce qu'ils diront de toi? C'était quelqu'un de bien? C'était quelqu'un de mauvais? Réfléchis bien à ça et au souvenir que tu vas devenir après ta mort. Ibn Rajab rahimahullah dit ensuite: سَلِ الْأَيَّامَ عَنْ عَمٍ وَخَالٍ وَمَا لَكَ وَالسُّؤَالُ وَقَدْ عَلِمْتَ أَلَسْتَ تَرَى دِيَارَهُمُ خَلَاءٌ فَقَدْ أَنْكَرْتَ مِنْهَا مَا عَرَفْتَ. Interroge les jours sur oncle, paternel et maternel. Interroge, c'est-à-dire questionne-toi sur ces gens. Où est ton oncle? Où est ton ancien oncle? Ton ancien oncle maternel, paternel? Et à quoi ça sert d'ailleurs de t'interroger alors que tu sais déjà? Tout le monde est mort, tout le monde est parti. أَلَسْتَ تَرَى دِيَارَهُمُ خَلَاءٌ. Ne vois-tu pas leur maison vide maintenant? Ils ont vécu, ils ont construit, leur maison est devenue vide. فَقَدْ أَنْكَرْتَ مِنْهَا مَا عَرَفْتَ. Tu ne reconnais même plus ce que tu connaissais. Et ainsi s'achève la poésie de l'imam Ibn Rajab rahimahullah, pleine de sagesse, pleine d'enseignements bénéfiques. Il dit ensuite: وَمِنْهَا النَّظَرُ فِي دِيَارِ الْهَالِكِينَ. Parmi les remèdes à la dureté du cœur, il y a la méditation sur ce qui est arrivé aux gens qui sont partis, justement leur maison vide. وَلِعْتِبَارُ بِمَنَازِلِ الْغَابِرِينَ. Leur maison qui était peuplée, il y a eu tant d'activités, et maintenant plus rien. Subhanallah. Toi-même, des fois, tu as vécu 1 an, 2 ans dans une maison, puis tu déménages, et lorsque tu as tout vidé, tu regardes cette maison et tu te dis, subhanallah, telle chose, c'était ici. Telle discussion, c'était là. Lorsque je mangeais tel repas, c'était ici. Lorsque j'ai éduqué mon enfant de tel âge à tel âge, c'était là. Et là, ça y est, plus rien. Plus de bruit. C'est comme ça qu'on partira de cette dunya. On ne laissera rien, à part le souvenir. Et on partira en emportant avec nous nos actions. Allahumma waffiqna bi tawfiqika ya rabbal alamin. Rawa ibn Abi Dunya fi kitab at-tafakkur wal-i'tibar bi isnadih 'an Umar ibn Sulaym al-Bahili aw Salim al-Bahili 'an Abi al-Walid annahu qala kana ibn Umar إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخريبة يعني البيت الخارب الفارغ عن أهله فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول كل شيء هالك إلا وجهه. والله ces gens-là n'étaient pas comme nous. Tout simplement. عبد الله بن عمر رضي الله عنه lorsqu'il voulait réviser l'état de son cœur, il allait dans les maisons ruinées, les maisons vides où il n'y avait plus rien. Il se tenait debout à la porte de la maison et il passait un appel avec une voix triste. Et il disait « Mais où sont tes habitants? Où sont ceux qui ont vécu ici? Où sont ceux qui t'ont construit, qui t'ont habité, qui t'ont peuplé? Où sont-ils ?» Puis, il revenait à sa propre personne et il disait « Kullu shay'in halikun illa wajha. Toute chose est vouée à périr, sauf sa face. » Sauf sa face, c'est-à-dire que toute chose périra, disparaîtra, excepté Allah subhanahu wa ta'ala.
وروى في كتاب القبور بإسناده عن محمد بن قدامة قال كان الربيع بن خثيم إذا وجد من قلبه قسوة يأتي منزل صديق له قد مات في الليل فينادي يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان ثم يقول ليت شعري ما فعلت وما فعل بك ثم يبكي حتى تسيل دموعه فيعرف ويعرف ذلك ذاك فيه إلى مثلها.
سبحان الله. الربيع بن خثيم un des élèves de Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه un tabi'i jalil un pieux lorsqu'il voulait adoucir son cœur et éliminer la dureté du cœur, j'aimerais que vous méditiez un instant. On parle de gens qui étaient des gens parmi les plus pieux. Et il disait qu'il ressentait une dureté du cœur. Mais qu'est-ce que nous, on doit dire alors? Il disait donc quand il ressentait une dureté dans le cœur, il allait dans la maison d'un de ses amis décédés. Il allait dans cette maison la nuit, parce qu'il était décédé la nuit, et il disait « Oh un tel !»« Oh un tel !» Il l'appelait et il disait, comme s'il disait « Subhanallah, qu'est-ce qu'il est advenu de toi ?» Et qu'est-ce qu'on a fait de toi? J'aurais tant aimé savoir. Qu'est-ce qu'on t'a fait de toi? Est-ce qu'Allah t'a accepté? Est-ce qu'il t'a pardonné? Est-ce qu'il t'a fait miséricorde? Puis il se mettait à pleurer jusqu'à faire couler toutes ses larmes. Ensuite, Ibn Rajab rahimallah termine en disant, parmi les derniers remèdes, Aklul halal, manger ce qui est licite. Aklul halal. روى أبو نعيم وغيره من طريق عمر بن صالح الطرطوسي قال ذهبت أنا ويحيى الجلاء وكان يقال إنه من الأبدال إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل فسألته وكان إلى جنبه بوران وزهير الجمال هؤلاء أصحاب أحمد فقلت رحمك الله يا أبا عبد الله بما تلين القلوب. Abu Nu'aym rapporte que les compagnons de l'imam Ahmed, rahimahullah, sont allés le voir pour l'interroger. Ils lui ont dit « Oh Ahmed, comment est-ce que les cœurs, par quoi est-ce que les cœurs s'adoucissent ?» Alors, « فَنَظَرَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَغَمَزَهُمْ بِعَيْنِهِ » L'imam Ahmed s'est mis à les regarder d'un regard perçant, comme si vous venez de m'interroger au sujet de quelque chose d'extrêmement important, comment les cœurs s'adoucissent. ثم طرق ثم أطرق ثم رفع رأسه. Puis il a baissé sa tête modestement, puis il a relevé sa tête et a dit فقال يا بني بأكل الحلال. Ô cher fils, en mangeant ce qui est licite. Tu veux que ton cœur s'adoucisse? Ne mange pas le haram. N'entre pas le haram dans ta maison. Ne fais pas manger le haram à tes enfants, à ta femme, aux gens desquels tu es responsable. Alors, il dit « Famarartu kama ana ila Abi Nasrin Bishr ibn al-Harith. Faqultu lahu ya Aba Nasr. » Celui qui a interrogé Ahmad dit « J'ai ensuite été voir Abu Nasr. » Et je lui ai posé la même question. « Oh Abu Nasr, bima talinul qulub.
Comment est-ce que les cœurs s'adoucissent? فَقَالَ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Il répondit, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? قُلْتُ فَإِنِّي جِئْتُ مِنْ عِنْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ. Il dit, je viens de demander à Abu Abdullah. قَالَ هِيهِ أَيَّ شَيْءٍ قَالَ لَكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ. Bishr lui dit, et qu'est-ce qu'il t'a dit, Ahmed, Abu Abdullah? قُلْتُ قَالَ بِأَكْلِ الْحَلَالِ. Je lui ai répondu, il m'a dit de manger le licite. قَالَ جَاءَ بِالْأَصْلِ جَاءَ بِالْأَصْلِ. Et alors il a répondu, il t'a cité la base, il t'a cité la base. C'est vrai, tu m'as demandé comment adoucir les cœurs, je t'ai dit par le rappel d'Allah. Et tu as demandé à Ahmad, il t'a dit en mangeant le halal. Eh bien, sache que l'imam Ahmad t'a répondu en citant la base, en citant la base. Car le rappel d'Allah, si tu manges le haram, à quoi il va te servir? Parce que tu as souillé ton cœur par le haram. Ensuite, cet homme-là qui a posé la question ne se contente pas de ça. Il dit, فَمَرَرْتُ إِلَىٰ عَبْدِ الْوَهَابِ الْوَرَّاقِ. J'ai été voir عَبْدِ الْوَهَابِ الْوَرَّاقِ. فَقُلْتُ يَا أَبَا الْحَسَنِ بِمَا تَلِينُ الْقُلُوبِ. Et je lui ai dit, par quoi est-ce que les cœurs peuvent s'adoucir? فَقَالَ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. Il répondit, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? قُلْتُ فَإِنِّي جِئْتُ مِنْ عِنْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ. Je lui ai dit que je viens de visiter Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Ahmed. فَحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ مِنَ الْفَرَحِ. Il a rougi de joie et a dit, فَقَالَ لِي أَيَّ شَيْءٍ قَالَ لَكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ. Qu'est-ce que Abu Abdullah t'a répondu? قُلْتُ بِأَكْلِ الْحَلَالِ. J'ai répondu, il m'a dit en mangeant le licite. فَقَالَ جَاءَكَ بِالْجَوْهَرِ جَاءَكَ بِالْجَوْهَرِ الْأَصْلُ كَمَالُ الْأَصْلِ. Il a répondu, il a cité al-jawhar, al-jawhar c'est le bijou qui est caché au milieu, qui est dans la base, le bijou, la chose la plus précieuse. Ahmed t'a répondu par la plus précieuse. Ahmed t'a répondu par la plus précieuse. Ibn Rajab a dit, قال بعضهم عنه لقد حكيت ولكن فاتك الأنسب والحمد لله وحده. Et ainsi s'achève par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala l'étude de cet écrit bénéfique, ذم قسوة القلب, le blâme de la dureté du cœur. والله تبارك وتعالى أسأل أن ينفعنا بهذه الدروس وأن يجعلنا من الذين ترق قلوبهم بذكر الله وبالعمل الصالح. اللهم اشف قلوبنا. اللهم نتوسل إليك بهذه المجالس وهذه الدروس وهذه المواعظ أن تلين قلوبنا وتذيب قسوتها. اللهم اشف صدورنا وزك نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.